Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
Et nous sommes ensemble jusqu'à 20h et je tiens dans les mains, dans cette publication blanche de Gallimard, ce livre intitulé « Guerre ». Il y est écrit juste en dessous « Édition établie par Pascal Fouché » avant-propos de François Gibault. C'est un livre signé de Louis-Ferdinand Céline. « Guerre », le Céline oublié, publié dernièrement par les éditions Gallimard, fait partie des meilleures ventes de livres actuellement. Et la question, elle revient une fois de plus. Faut-il lire Céline ? Peut-on lire Céline ? Bonsoir à Frédéric Vitoux.
Bonsoir.
Vous êtes écrivain, critique littéraire, membre de l'Académie française. Bonsoir à Annick Durafour. Vous êtes agrégé de lettres, spécialiste de l'histoire de l'antisémitisme et du racisme. Alors évidemment, cette question, à tort ou à raison, elle revient. Chacun a son point de vue là-dessus. C'est extrêmement difficile de dire oui ou non. Donc évidemment, notre débat sera passionnant de savoir justement quels sont les arguments pour et les arguments contre. On dit, faut-il lire Céline de la même façon qu'on pourrait dire, est-ce qu'on peut encore regarder un tableau de Renoir ou écouter du Wagner ? Mais évidemment, parce que peut-être parce que parce que Louis-Ferdinand Céline est un écrivain français, on a plus de proximité avec lui. Est-ce que, d'abord, Frédéric Vitoux, vous qui êtes, un spécialiste de Céline, même si ça, en tout cas vous êtes beaucoup intéressé à cet écrivain, qu'est-ce que ça vaut ce Guerre ? Est-ce que c'est un bon cru ou un mauvais cru ?
Ce n'est ni un bon cru ni un mauvais cru. Ce n'est pas un cru du tout, en fait. C'est un brouillon d'un essai romanesque qu'il avait écrit, tenté d'écrire, après Voyage au bout de la nuit, juste après, donc oui, dans les années 33 environ. Il avait une idée d'évoquer en particulier la blessure qu'il avait reçue sur le front en octobre 14, et qui curieusement n'est pas évoquée dans Voyage au bout de la nuit. Donc il avait pensé à une construction dramatique qu'il va partiellement tenir, c'est-à-dire une idée de faire une grande transposition biographique dans ses livres, même si c'est halluciné, si c'est déformé par l'excès du regard célinien. Donc il avait pensé faire un récit de son enfance, il va le faire, c'est mort à crédit, puis de l'engagement de la guerre, puis de la blessure, oui, et aussi ensuite, ce qu'il va le faire en 1916, c'est son séjour à Londres. En fait, il ne trouve pas son ton avec Guerre. Il y a des choses très belles dans Guerre, c'est un livre, c'est un document passionnant que les Céliniens doivent lire, et c'est évident, on ne peut pas faire l'économie d'un texte comme ça. Je considère qu'on ne peut pas vraiment le considérer comme une œuvre à part entière. C'est un texte qu'il a écrit en 1933, qu'il a laissé tomber, qu'il a laissé chez lui pendant près de 12 ans, qu'il n'a même pas songé à faire taper par sa secrétaire comme une œuvre qui pourrait devenir quelque chose d'autre dans un deuxième ou un troisième état. Donc, je suis un peu réservé sur le fait de considérer Guerre comme une œuvre à part entière. C'est un document littéraire.
Pour les initiés.
Pour tous les amateurs de Céline.
Oui.
Vous disiez, peut-on lire Céline ? Je rappelle simplement que Céline est l'écrivain français du XXe siècle le plus traduit dans le monde.
Oui.
Il n'y a pas un pays au monde qui n'ait pas traduit Céline, même en hébreu. Donc, la question n'est pas de savoir si on lit ou si on ne lit pas Céline, savoir si on le considère comme une œuvre ou comme un document qui enrichit la connaissance de Céline.
En tout cas, vous serez d'accord que si on veut, si on n'a jamais lu de Céline, il ne faut pas commencer par ça.
Non, il faut mieux commencer par les grands classiques, peut-être Voyage et Mort à crédit, et puis on peut en discuter à l'infini.
Annick Durafour, vous avez lu Guerre ?
J'ai lu Guerre aussi.
Qu'est-ce que vous en avez pensé ?
Écoutez, je suis très proche de Frédéric Vitoux. J'ai été étonnée un peu du concert journalistique, de la réception, avec le mot chef-d'œuvre qui revenait tout le temps. Et manifestement, non, on ne peut pas dire que c'est un chef-d'œuvre. On voit que c'est un texte qui n'est pas très travaillé. Et puis Céline avait 10 ans. S'il l'a écrit en 34, ce qui n'est pas tout à fait sûr, entre 34 et 44, sa fuite en Allemagne, il avait 10 ans pour le publier. Il n'a pas voulu le publier. Il l'a laissé. Il pouvait aussi le confier à des amis. Il avait des amis dans l'immeuble, rue Gérardon. Il y avait Daragnès. Il confie la dactylographie de Dignol's Band 2, c'est-à-dire ce qui deviendra le pont de Londres. Il en confie un exemplaire à Marita Navadja et il part avec l'autre. Ce qui prouve bien qu'il tenait à Dignol's Band quand il part en 1944, enfin Dignol's Band 2, puisque le 1 est déjà sorti. En revanche, là, c'est vraiment quelque chose qu'il a...
Vous auriez préféré qu'on ne publie pas cette œuvre ?
Non, moi je dirais pas ça. Je pense qu'il fallait le publier, mais comme document. peut-être groupé avec d'autres, les manuscrits suivants.
Mmh.
Voilà, plutôt dans peut-être des cahiers Céline, plutôt que la collection Blanche, par exemple.
Cela dit, il y a quand même une préface, une sorte de, pas de mise en garde, mais disons que voilà, il y a une sorte de propos, d'avant-propos très détaillé sur, voilà, vous allez lire ceci, effectivement, c'est pas un roman à part entière, il faut le lire comme tel, non, Frédéric Bidou?
Oui, c'est sûr. J'ajoute qu'un brouillon de Céline écrit à la hâte et qui n'a pas vocation, qui n'avait pas vocation pour Céline à être publié comme une œuvre à part entière, nous sommes d'accord, tous les trois ici, je pense, reste avec des... Il y a parfois des pépites, des trouvailles. Bah, j'invite les lecteurs de Guerre à relire les deux derniers paragraphes qui sont à pleurer d'émotion, quoi. Je veux dire, c'est magnifique, là. Mais on a l'impression qu'entre le relatif, je dis bien le relatif classicisme de Voyage au bout de la nuit, le livre qui va suivre à peu près 4 ans après Voyage au bout de la nuit, qui s'appelle Mort à crédit, où il trouve un autre ton, là, il tâtonne sans trouver encore sa petite musique, comme il l'appelait, Céline. Et donc, c'est un document qui est passionnant. Très loyalement, d'ailleurs, les présentateurs évoquent ça. Voilà. Simplement, c'est que pourquoi les critiques appellent ça chef-d'œuvre ? Peut-être qu'ils considèrent qu'un brouillon de Céline qu'il abandonne. Oui, on sait à peu près qu'il a été écrit en tel... Parce qu'on a sur le dos d'un manuscrit, oui, il a la date d'Elizabeth Craig, qui va retrouver en 1934. Donc on est à peu près certain qu'il l'a écrit... Enfin, à peu près certain qu'il l'a écrit à ce moment-là. C'est passionnant. C'est passionnant et il fallait le publier.
Annick Durafour, est-ce que vous avez eu la même émotion que Frédéric Vitou ?
Il y a ici et là, une phrase, une évocation... Bon, il y a une satire, par exemple, alors pour une fois très légère, de la famille, avec le curé, Arnache, etc. Le curé parlait doux comme une femme, il buvait son café comme on boit de l'or. Bon, des petites choses comme ça, un peu légères, qui font sourire. Moi, j'aime bien l'évocation du paysage de la fin, quand il voit la côte française s'éloigner. Mais à côté de ça, je trouve qu'il y a des... Il y a des problèmes de construction. Je trouve que même les pages sur la guerre sont répétitives et parfois pas très cohérentes dans les images. On a deux pages, par exemple, d'onomatopées tchouk-tchouk, boum-boum, etc., que je trouve, moi, tout à fait infantile. Ça me fait
Vous
vraiment...
auriez préféré un phrasé pour décrire ce qui se passe?
Ah bah bien sûr. C'est-à-dire que... Enfin, bon, on sait que Céline aime bien les onomatopées, mais on voit bien l'idée, c'est d'écrire le front de l'intérieur, en focalisation interne, et donc par le bruit, hein, d'écrire la guerre par le bruit. Mais quand ça se réduit à bon, bon, tchouk, tchouk, etc., bon, c'est un peu grand guignol. Et il y a des passages comme ça que je trouve très grand guignol, quoi, caricaturaux, du genre les deux rats qui mange pépère dans le bide d'un soldat éventré, le ventre ouvert et ça glouglou comme de la confiture, parce que ça doit déborder.
Mais est-ce qu'on ne le retrouve pas justement dans ce genre de phrasé, Céline ? C'était ça aussi.
Ce qui est intéressant, ce que je trouve que le plus intéressant dans le livre, c'est que pour ceux qui connaissent Voyage au bout de la nuit, l'évocation de la guerre, on le voit qu'il s'engage à la guerre, et puis il y a comme une sorte d'ellipse, et il est blessé, il est rapatrié, mais la guerre elle-même, c'est-à-dire la blessure, et ce qui suit immédiatement la blessure, c'est-à-dire les hôpitaux de l'arrière, n'avait pas été évoqué dans Voyage au bout de la nuit. On comprend un peu pourquoi. Parce que, d'une certaine manière, la blessure du soldat Louis Destouches, qui va devenir Louis-Ferdinand Céline, et après tout, héroïque, il est blessé dans une mission, il était porté volontaire, non pas à cheval comme on l'a prétendu, il était à pied. Peu importe. Évoquer cette blessure, c'est évoquer aussi les médailles militaires qu'il a reçues, etc. Et donc ça ne collait pas avec l'image du planqué qu'il donne dans Voyage de la nuit, où il surjoue le pacifisme pour mieux se faire bien voir des infirmières. Donc il ne pouvait pas traiter cette violence de sa blessure. Mais d'un autre côté, là, d'un côté, il raconte qu'il va recevoir une médaille militaire et de l'autre, il veut se noircir parce qu'il y a toujours une vision calamiteuse, catastrophique, cauchemardesque chez Céline. Et alors, ça donne une sorte de curieux contraste. Mais ce qui est intéressant, malgré tout, c'est, comment dirais-je, le côté convulsif de l'horreur de la bataille ou des conséquences immédiates. Donc, il y a un portrait des hôpitaux de l'arrière avec ce côté sanguinolent. Mais ce qui va devenir chez Céline, on peut dire, la grossièreté, non, pardon, pas la grossièreté, le grossissement de la vision célinienne, qui est une vision qui grossit. Là, on est plus proche, parce qu'il ne l'a pas encore écrit, il ne l'a pas mis en musique, d'une forme de vulgarité plutôt que d'une forme de grossissement. Mmh. Pareil, voilà, c'est ça qui me fait énoncer ses réserves.
Annick Durafour.
Alors pour moi, la vulgarité, je la trouve essentiellement dans ses rapports avec les femmes.
Bien sûr, c'est ce que je pensais.
Et là, dans le café, qui s'appelle lourdement aussi l'hyperbole, où la boniche s'appelle destinée. Bon, il y a des, c'est un symbolisme un peu lourd, moi je trouve. Comment vous dire, c'est effectivement très violent, vulgaire, humiliant. Ce que personne n'a remarqué, c'est que l'infirmière s'appelle quand même l'Espinasse. Mmh. Céline n'ignore pas, enfin je pense qu'il y a vraiment une allusion à Julie de l'Espinasse, qui est en fait une épistolière du XVIIIe siècle, une femme cultivée, savante, qui reçoit les savants, les intellectuels de l'époque. Et il en fait, de cette femme-là, il en fait une infirmière branleuse et nécrophile. Avec des dents vertes. Mais Julie de l'Espinasse avait la vérole, alors vert, je ne sais pas. Et aussi, non, il fait allusion à la passion de l'Espinasse. Et donc, pour moi, là, il y a quelque chose de... Céline déteste les intellectuels et il n'aime pas trop...
Il n'est pas le seul, là, dans les écrivains, d'ailleurs.
Non, mais à ce point-là, tout de même...
Je ne suis pas tout à fait de votre avis.
Oh oui, les intellectuels n'y comprennent rien, ils croient que les mots ne sont que... Enfin, ils croient que juif, c'est un mot, par exemple. Non, et puis il est mal à l'aise avec les intellectuels. Il rencontre Bernanos, il rencontre Malraux, il rencontre Milton Indus, tous sentent le malaise de Céline, qui, malgré tout, s'est arrêté au certificat. À une culture tout de même légère, même un critique d'extrême droite de son bord, comme Robert Poulet, qui admire en même temps beaucoup Céline, dit que manifestement il lui manquait assez d'intelligence pour tenir le rôle qu'il avait à assumer. Quoi.
Mmh. Frédéric Vitou.
Moi, je crois qu'on fait.
Il y a des parallèles.
Ce que je suis prêt à admettre la rupture de Céline et des intellectuels. C'est pas le cas en 32 ou en 33, où il a quand même été... c'est pas la rupture de 36-37. Hein. Donc, ce que vous dites sur Poulet, ce que vous dites sur les autres, c'est tout à fait exact, mais bien après, historiquement.
Bernanos le rencontre à cette période-là.
Par exemple,
hein.
Moi, je peux vous dire, par exemple, en regardant de près la rencontre de Céline avec Mauriac, ça se passe bien. Même si après, ils vont se haïr et se détester. Mais ils déjeunent ensemble au restaurant, ils sont vus la veille. Après le dîner au restaurant, on sait par les carnets de Ramon Fernandez, ils vont continuer la soirée chez Céline, à rue Lepic. Rue Gérardon, c'est très tardivement, hein, beaucoup plus tard, sous l'occupation. Donc, Céline est plutôt bien accueillie. Il va continuer à avoir des rapports avec beaucoup d'intellectuels. Donc, on ne peut pas parler de rupture avec des intellectuels, de mépris. Je ne sais pas si... Je n'avais pas pensé à toute cette symbolique sur l'infirmière. Est-ce que c'est lié aussi avec... l'acteur Pierre Brasseur, qui s'appelait Espinasse. Vous voyez, on pourrait s'amuser à faire des tas de références. Ça me paraît un peu risqué. Je sais qu'il s'inspire aussi, mais de manière très cruelle, d'une femme qu'il a sans doute connue, une infirmière, Alice David. Mais peu importe. En effet, il y a une sorte de vision qui, aujourd'hui, avec notre sensibilité, nous choque beaucoup dans le rapport avec la femme. Mais en même temps, elle est compassionnelle. C'est une femme qui, devant des gens moribonds, les branle pour les faire penser à autre chose. On pourrait dire que c'est une sainte qui veut leur bien-être en leur faisant penser à autre chose. Donc, tout est très, très complexe. C'est ça qui est formidable quand on parle de Céline. C'est qu'on arrive toujours... à dire une chose qui est vraie et le contraire qui est vrai aussi.
Mais c'est justement le principe d'un débat et je suis content que vous soyez là tous les deux pour en parler. Annick Durafour, spécialiste de l'histoire de l'antisémitisme, du racisme et l'académicien. Frédéric Vitou sont là pour nous parler de Céline in extenso et aussi de ce livre retrouvé, Guerre, ce manuscrit retrouvé, 19h44. Vous êtes sur Europe 1, on revient dans un instant.
Europe Soir Weekend. Pierre de Villeneuve.
Bien accompagné ce soir avec l'académicien Frédéric Vitou et l'agrégé de l'aide spécialiste de l'histoire de l'antisémitisme et du racisme, Annick Durafour, pour parler de ce texte que les éditions Gallimard publient et qui fait partie des records de vente de livres en ce moment, Guerre, signé de Louis Ferdinand Céline. Alors, on va sortir un peu de ce texte dont on a beaucoup parlé en première partie de débat. Pour en venir à la question initiale, vous savez que le ministre de l'Intérieur, il n'y a pas si longtemps que ça, a fait condamner une femme qui, dans une manifestation, portait une banderole antisémite. L'antisémitisme est un délit. Alors, la question, chers amis, c'est est-ce qu'on peut lire Céline alors qu'il est foncièrement antisémite? Quand on lit notamment ce qui est écrit dans l'école des cadavres, enfin, je ne vais pas le réciter parce que moi-même, ça me met mal à l'aise. Annick Durafour, est-ce qu'un Français, aujourd'hui, peut acheter ça?
Alors,
pardon de poser la question ainsi crûment.
Oui. Moi, j'ai vu des... je me souviens, j'étais en train de lire Céline, Place de la Sorbonne, il y a très longtemps de ça. Et j'ai vu des Allemands qui étaient sidérés de me voir lire Céline. Pour eux, c'était impensable parce que bon, ils devaient connaître, en savoir assez.
Et ils vous ont parlé? Ils ont dit quoi?
Oui, il y a une remarque, mais vous lisez ça, vous lisez Céline. Enfin, c'était, ils étaient choqués. Je pense que...
Et vous avez répondu quoi?
J'ai répondu ce que je vais vous dire là, c'est oui, bien sûr qu'on peut lire les romans de Céline. Et on va évidemment distinguer les romans et puis les pamphlets. Les pamphlets sont des œuvres d'intervention, sont des œuvres de propagande qui cherchent à agir sur l'opinion. À un moment crucial en France, quand même, les années 30. Alors, il prend aussi la vague de l'antisémitisme à ce moment-là. Il y a les années 37-39, si vous voulez. 50% des pamphlets qui paraissent dans la décennie paraissent entre 37 et 39. Oui. Libelle, etc. Donc, il y a une forme d'opportunisme chez Céline qui n'empêche pas ce fanatisme, cette violence, cette virulence antisémite. Donc, la question des pamphlets est tout de même à part, différente. Alors, ça ne veut pas dire
que... C'est le même homme.
Alors, c'est là que c'est intéressant.
Eh ben oui.
C'est-à-dire que pour moi, il y a l'hypothèse, c'est qu'il y a une... Au fond, il y a une matrice commune entre l'homme et l'écrivain. Mm-hmm. Entre, donc, les pamphlets même et les romans. Vous avez des dimensions pamphlétaires dans les romans. C'est-à-dire une dimension polémique, il y a de la violence, il y a de la virulence, il y a du mépris... Enfin, il y a beaucoup de... Et puis, alors, il y a autre chose. Il y a ce ton absolument assertif. Il y a quelque chose de la vérité de comptoir qu'on trouve dans des formules de voyage qu'on trouve, évidemment, dans les pamphlets. C'est celui qui sait, qui a vu l'envers du décor, à qui on ne la fait pas, qui ne doute pas, qui ne réfléchit pas, qui sait la vérité. Et ça, c'est...
Dans la série, il n'y a pas de débat.
Non, il n'y a pas de débat pour Céline. Il faut voir ses entretiens avec Milton Indus. Enfin, il refuse même, il ne peut pas argumenter. Il dit taisez-vous. Moi, je sais, vous ne savez pas, taisez-vous. Quoi. Et Milton Indus est assez un juif américain qui vient le voir au Danemark. Et il est assez choqué de ce caractère très élémentaire de Céline. Donc Céline, c'est quelqu'un de raffiné dans le... C'est un raffiné dans le style, dans la petite musique. Mais un roman, c'est pas seulement une petite musique. Ça veut dire que pour moi, on peut pas aimer... Enfin, aimer le style, il aimait le style, mais il n'aimait pas les idées. Vous savez, c'est Flaubert qui parle de Monsieur Homais, comme ça. Hein. Il y a dans... Et c'est ça qui est intéressant, c'est de travailler les romans. Même Guerre, hein. Guerre, c'est quand même... Ferdinand se libère de toutes les contraintes. Lève toutes les inhibitions, tous les devoirs, toutes les normes, et il prend modèle sur le macro. Parce que personne n'en parle. On fait des ronds de jambes et on dit « Ah, il y a une sexualité un peu débridée » ou « C'est vulgaire ». Mais Ferdinand se met à l'école du macro. Et d'ailleurs, même dans la biographie, les relations entre Céline et le prosélytisme sont assez lourdes.
Beaucoup de choses viennent d'être dites, Frédéric Vitoux.
Non, je ne vais pas contredire ni commenter. Je ne vois pas très bien le rapport entre les côtés assertifs, comme vous le dites, et l'antisémitisme. En effet, surtout dans Voyage au bout de la nuit, il y a beaucoup d'aphorismes. Mais ce ne sont pas des bons mots, ce n'est pas des brèves de comptoir. Quand Céline écrit, par exemple, « L'amour, c'est l'infini mis à la portée des caniches », ce n'est pas les tontons flingueurs, c'est les pensées de Pascal.
Non,
c'est
pas
les pensées
tout.
De Pascal. C'est-à-dire
c'est
quoi,
une phrase bête.
Attendez, vous permettez. C'est-à-dire l'homme est dans un cloaque, ouais, là, et puis il y a quelque part, au fond du cloaque ou du côté caniche des hommes, il y a l'infini qui est là, c'est-à-dire quelque chose qui le dépasse et qui est plus grand que lui. Bon, ça, c'est Pascal.
Vous n'avez pas la même lecture.
Et d'ailleurs, qui a lu un jour cette phrase, l'a pris en pleine figure, parce que justement, il y a cette complexité-là. Voilà. Donc, simplement, oui, Céline est antisémite. Bon, alors, la question n'est même pas de savoir si c'est bien ou c'est mal. On est tous d'accord pour s'effrayer des pamphlets antisémites de Céline. Il n'y a pas là où il y a un débat. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Alors,
deux questions que je pose, en effet.
Oui. Soit on ne lit pas du tout Céline. Bon, le monde entier nous a donné tort, puisque Céline est traduite, pas de manière best-seller, mais dans le monde entier. Gallimard me disait, c'est probablement l'écrivain français du XXe siècle qui compte le plus de traductions dans le monde entier. Est-ce qu'il faut lire le bon Céline et ne pas lire le mauvais Céline ? Bon, alors on peut dire pour un chercheur, c'est un bloc, et là vous avez raison, il faut prendre Céline avec ses ombres, et Dieu sait s'il y en a, et puis cette œuvre. Est-ce qu'il faut réimprimer les pamphlets ? Ça, c'est la question sur laquelle il n'y a pas de réponse. Parce que, en effet, toute incitation à la haine raciale, et en particulier à l'antisémitisme, c'est en principe prohibé par la loi.
On a réimprimé Mein Kampf avec notice.
Alors, est-ce qu'il faut, avec mille précautions, faire une édition critique extrêmement savante, très montrer toutes les sources, tous les fonds de tiroir dont il s'est servi, et le faire en édition critique, ou considérer que même comme ça, ça ferait encore, dans notre société d'aujourd'hui, qui n'est pas débarrassée, loin s'en faut, hélas, de l'antisémitisme, je ne vais pas rentrer dans des exemples, on les connaît, hélas, il y en a beaucoup, est-ce que ça serait délétère ou non ? Bon, Madame Destouches, la veuve de Céline, à la demande de son mari, avait interdit les pamphlets. Bon, c'était réglé.
Interdit de les réimprimer.
Oui, il ne voulait pas qu'on les réimprime. Ouais. Aux yeux de Céline, c'était des écrits de circonstance, vous l'aviez rappelé, c'est vrai en un sens. Et qu'il trouvait qu'il ne voulait pas les rappeler, les republier. C'est une question, moi, je n'ai pas de réponse. Je comprends qu'on peut dire, est-ce qu'on peut vivre en occultant comme document une partie, même la plus ténébreuse d'un écrivain? Ou est-ce qu'il faut, au contraire, les maintenir dans l'ombre et l'effacer ? C'est une question que les intellectuels doivent se poser, mais qui doit se poser dans l'opinion publique.
Frédéric Vitou, j'ai une question pour vous. Vous avez tout lu, Céline ?
Oui.
Tout, Céline ?
Oh, oui.
Et les pamphlets, quand vous les avez lus pour la première fois, vous les avez lus, j'allais dire, comment ? Est-ce que vous les avez lus d'une traite ? Est-ce que vous les avez relus ? Est-ce qu'il y a des phrases, des paragraphes que vous avez relus pour vous pencher dessus ? Comment est-ce que vous avez...
J'ai été partagé entre la violence, effrayé. C'est des textes qui sont écrits, à la différence des livres, très rapidement, en quelques semaines. Il les écrivait très vite, donc il n'y a pas ces inventions stylistiques. Parfois, il y a des trucs qui sont... Pour Céline, c'était des choses drôles, ça qui est ahurissant. Bagatelle pour un massacre, c'était « j'écris des bagatelles pour éviter le massacre que sera la nouvelle guerre à venir ». C'était cette tradition pacifiste que Poliakov a très très bien montré dans son histoire de l'antisémitisme. L'école des cadavres, bon voilà, est-ce que les cadavres de 14-18 n'ont rien appris ? Donc, c'était écrit très vite comme ça. Ça m'a effrayé. Un honnête homme ne peut pas ne pas être offusqué par ça. Maintenant, quand on est un lecteur, on regarde un peu plus près d'où ça vient, comment ça va. Et pour Céline, c'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est-à-dire que l'antisémitisme des, disons, des fascistes français, de Je suis partout, Rebattet, Brasillac, on voit d'où ça vient. Bon. Chez Céline, il faudrait faire des heures d'émission pour essayer de comprendre d'où vient cet antisémitisme-là, qui n'est pas celui d'un ordre nouveau, mais c'est celui... Enfin, je pourrais parler des heures là-dessus.
Votre
et c'est
avis là-dessus,
trop compliqué.
Oui. Annick Durafour.
Là-dessus, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce qu'on connaît les sources. Enfin,
bien sûr, les sources.
Oui, donc on sait d'où ça vient. Et il récupère la propagande des officines, la propagande allemande, du Weltdienst, du bulletin de, antisémite mondial, nazi. Il lit vraiment tout ça, il les pompe, il les découpe. Et si vous voulez, donc c'est la littérature des officines. Et il fait
ça,
passer.
Je suis d'accord avec vous, je l'avais dit avant vous, que ça venait des sources bâclées
donc,
qui viennent
mais
toutes
donc
les raclures. Ça
vient pas d'un mystère très profond.
Non, mais ça, c'est les documents. Oui, mais je parle d'où vient l'antisémitisme de Céline. Bon, c'est très
gros. Vous avez Marcel et... Oui, enfin, il y a plein de choses. Bon, oui, l'enfance, l'éducation, les parents. Mais alors, moi, j'ai envie de dire quelque chose qui est très particulier chez Céline, c'est que la haine, j'ai repéré comme ça le thème de la haine dans toute l'œuvre. Aussi bien dans les romans, dans les essais et dans la correspondance. Et la haine est revendiquée chez Céline. Elle est aimée. Il dit dans Voyage, la haine, c'est le piment vital de l'existence.
Donc on peut lire, mais il faut s'y préparer, d'une certaine manière. C'est ce que vous dites, Annick Durafour.
Non, ce que je veux dire, c'est que la haine préexiste, et un truc très curieux, la haine chez Céline comme préexiste à l'expression de l'antisémitisme. Alors, question, est-ce qu'il est éduqué à la haine par l'antisémitisme, ou est-ce que sa haine, à un moment, la haine métier polymorphe, hein, qui vise toutes les cibles,
est-ce qu'elle est congénitale,
à un moment, se catalyse sur les Juifs. Bon. Alors là, il y a aussi les circonstances. Hein. Céline réagit. Il ne faut pas oublier qu'il est aussi tout à fait anticommuniste. Il a des idées tout à fait, en fait, réactionnaires. Hein. Avant voyage, quand on suit la correspondance. Bon. Et donc
voilà, il faut faire son marché, j'allais dire, dans tout ce que vous avez dit. Cette émission est évidemment à réécouter. Et Annick Durafour et Frédéric Bidou.
Je pourrais juste employer un autre mot.
Dites-vous.
C'est
dites
que maintenant. Comme toujours, tout est vrai et le contraire est vrai. C'est que c'est vrai qu'il y a une violence, il y a une haine chez Céline. Vous avez raison de la souligner. Mais on pourrait employer un autre mot qui est toujours chez Céline. C'est le mot compassionnel. C'est aussi un médecin. Il y a aussi une connaissance, une sensibilité à la souffrance.
En tout cas.
Qui est chez Céline, comme peu d'écrivains français du XXe siècle sont aussi compassionnels que lui, en même temps
en
qu'ils
cas,
sont très violents.
Avec vous deux, on est prévenus avant de lire Guerre, ce dernier texte de Louis-Ferdinand Céline, réimprimé et réédité dernièrement par Gallimard. Merci à vous, Frédéric Vitoux et Annick Durafour.